OKP Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Bien. Comment faire face aux effets du changement climatique sur les cultures? Vous savez, le changement climatique menace les cultures dans plusieurs régions du monde. La RDC n'est pas épargnée par ce phénomène. Certains paysans enregistrent de plus en plus de faibles productions agricoles. La rareté des pluies, les fortes chaleurs ainsi que les fortes pluies sont autant des raisons qui causent la baisse du rendement agricole. Alors comment faire face à ce phénomène et que faire pour favoriser la résistance des cultures au changement, face au changement climatique. Alors, pour avoir des réponses à toutes ces questions, nous recevons le professeur Nicolas Chukwu Onemba. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors,
on me fait plaisir.
Les changements climatiques font de plus en plus sentir ses effets.
Oui, nous vivons la modification climatique aujourd'hui à travers le monde. Comme vous allez le remarquer, aujourd'hui, d'ailleurs, il fait chaud.
Ces derniers temps, il fait chaud.
Dans la zone intertropicale, les températures ne cessent à augmenter. Et par contre, dans les zones polaires, il y a des gels, il y a les océans qui ne cessent d'augmenter de leur niveau. En fait, à tous les niveaux, on est en train de retrouver une certaine modification des éléments du climat. Et soit une augmentation de température, soit une diminution de la précipitation, soit le problème de la circulation de la masse d'air. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui influent sur les changements climatiques.
Alors, quels sont les effets que ce changement climatique peut avoir sur les cultures, l'agriculture?
Beaucoup d'effets. Je vais parler d'abord de l'agriculture paysanne, parce que comme vous aurez à le remarquer, dans la République démocratique du Congo, comme dans des pays africains, la plus grande agriculture, c'est ce qu'on appelle agriculture paysanne, comme le nom l'indique, c'est une agriculture pratiquée par des paysans. Pourquoi je parle de la population paysanne ou agriculture paysanne? C'est parce que la plupart des personnes qui sont dans des milieux paysans, ils font les cultures d'une façon non intelligente et ça influe sur les modifications climatiques. Vous aurez remarqué que dans les pays développés, l'agriculture paysanne permet en fait un maximum de paysans d'un territoire de pouvoir s'organiser et travailler et faire les cultures du point de vue écologique. Et par contre, dans les pays du tiers-monde, l'agriculture paysanne ou l'agriculture des familles, comme on est en train d'appeler dans d'autres pays, fait recours à des techniques traditionnelles. Et quand on fait une agriculture avec des techniques traditionnelles...
Lesquelles, par exemple?
Par exemple,
l'agriculture
sur brûlis avec une faible jachère. Ça signifie quoi? Vous aurez un rendement très faible et vous aurez à couper des grands espaces pour vous nourrir et puis vous n'avez pas de rendement. C'est une agriculture d'auto-consommation. Et cette agriculture n'affecte souvent la forêt, affecte les sols. Et c'est une agriculture qui sujette les sols à des lessivages. Alors, et du fait de couper les arbres, comme on le disait l'autre fois, c'est que vous êtes en train de modifier la niche écologique et vous êtes en train de modifier les conditions écologiques. Climatique. Mais si nous arrivons dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo, avec des strates climatiques qu'on retrouve, et qu'est-ce que nous pouvons remarquer de la République démocratique du Congo est caractérisée effectivement par une agriculture de surbrûlis, une agriculture de subsistance, une agriculture dont la jachère est faible, comme nous étions en train de le dire. Et les études montrent aujourd'hui que plus de 80% des paysans de la République démocratique du Congo pratiquent cette agriculture d'autoconsommation. Ils font l'agriculture pour consommer, ils font l'agriculture pour manger, et parce que ils ne peuvent que faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre travail. Et puis cette agriculture, la production, la productivité comme la production faibles et ils occupent des grandes étendues. Et comme c'est une agriculture surbrûlée et que quand on brûle, On brûle la végétation, on brûle, et il y a les cendres, et quand il pleut, les cendres sont lessivées, et les sols sont sujettes à des ravinements. Et dans cette agriculture, comme je disais, ici, on utilise la houe, machette, coupe, des méthodes rudimentaires. Pourtant, ailleurs, on a la robotisation de l'agriculture. Oui. On a la mécanisation de l'agriculture.
Mais nous, on et les paysans sont organisés.
Les paysans sont organisés, ils sont assemblés pour arriver à augmenter leur production. Mmh. Mais nous sommes encore dans le système rudimentaire, tout à fait rudimentaire. Et puis, en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous ne remarquons pas? Et la production est toujours faible du point de vue agricole. Oui. Et tout ça a des influences. Quand vous prélevez un élément de l'écosystème, qui est l'arbre, par exemple, et c'est vrai que vous êtes en train de couper l'écran qui sont les feuilles qui favorisent la photosynthèse et vous perturbez les puits du carbone. Et que à ce moment-là, qu'est-ce que nous remarquons? C'est des modifications climatiques qui arrivent dans notre pays.
Alors, voilà. Donc il y a autant de problèmes. D'abord, ce sont les méthodes. Vous avez incriminé les méthodes utilisées par ces paysans pour pratiquer l'agriculture. C'est ça, cela a été fait.
Oui.
Alors maintenant, on se retrouve devant les changements climatiques. Il y a un faible rendement. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il faut faire,
professeur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord, il faut une certaine conscience agricole du pays. Le pays doit savoir qu'il a de l'espace et que cet espace est en train d'être perturbé et que le climat est en train d'être modifié. Quand vous remarquez aujourd'hui dans notre pays, nous avons, j'introduisais en disant qu'il y a des il fait davantage très chaud, ça signifie qu'il y a des températures qui augmentent.
Est-ce que c'est là la chaleur peut aussi avoir de l'influence sur les cultures?
Mais c'est tout à fait évident, parce que quand il fait tellement chaud, qu'est-ce que vous allez remarquer? Par exemple, les cultures telles que les légumes, les cultures telles que les arachides, les cultures vont sécher, parce que la température détruit finalement certaines cultures.
Même si on arrosait, généralement.
Il faut arroser, mais pour arroser, il faut avoir les moyens pour arroser. Mais ici, nous sommes dans les milieux paysans. Il est évident que ces gens n'ont pas des arrosoirs. Ils doivent ramener de l'eau là-bas pour arroser. Ce que nous voyons, c'est des cultures qu'ils coupent la forêt, c'est la forêt équatoriale ou la savane boisée et la savane arbustive, où ils font des cultures sur les bas-fonds. Et la conséquence, soit c'est des dénivellements, c'est des ravinements. Et que faut-il faire maintenant? Comme vous êtes en train de poser comme votre côté.
Avant de répondre à cette question, professeur, nous allons accueillir un auditeur. Yann Yuma nous appelle de Gemena. Bonjour.
Bonjour Radio Kati, bonjour l'invité.
On vous écoute, Yann.
Bon, ma préoccupation est la suivante. Je voulais poser une question à l'invité. Aujourd'hui, nous savons bien que le changement climatique est déjà là, avec ce que nous avons suivi à la télévision ainsi qu'à la radio. Ma question est de savoir, quels sont les remèdes que nous pouvons employer aujourd'hui pour remettre notre climat à l'état initial?
Merci, professeur. Le remède pour remettre le climat à l'état initial.
Bonne question. Il faut une conscience environnementale pour remettre votre climat à l'état initial. Il sera difficile d'abord de remettre le climat à l'état initial compte tenu du fait que la population du monde est en train d'augmenter, la population de la RDC est en train d'augmenter, et cette population n'a que des ressources naturelles pour se nourrir. Ils ne font que la pression sur les écosystèmes, ils font que la pression sur les ressources naturelles. Qu'est-ce que quand vous coupez des arbres, quand vous êtes en train de faire votre culture, il faut savoir que vous faites la pression sur les arbres, il faut repiquer, il faut replanter les arbres pour avoir l'équilibre. Et s'il n'y a pas reboisement, ça veut dire que on n'arrivera pas à mettre l'équilibre sur le plan climatique. Et puis, quand on fait des constructions, il faut que les constructions obéissent à des normes urbanistiques et à des normes écologiques. Et il y a des endroits où, quand on fait des maisons, on construit des maisons, les maisons ou les bâtisses doivent être en rapport, doivent se marier avec le système écologique forestier de telle manière qu'on ne puisse pas dégrader la forêt. Mais ici, quand on a le lopin de terre, d'abord c'est l'occupation anarchique, et puis on fait des coupes à blanc, ça signifie qu'il est difficile de remettre le climat à l'état initial. Pour le faire, il faut une conscience environnementale, il faut une sensibilisation, il faut des pratiques que congolais que vous devez faire pour commencer à remettre le climat à l'état initial. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs facteurs qui modifient le climat, il n'y a pas que l'agriculture, il y a l'énergie, parce que si vous modifiez l'agriculture, les gens vont aller vers l'énergie, les gens vont construire des maisons, et puis les gens vont couper les bois pour faire des bancs. En fait, il faut des pratiques écologiquement responsables.
Vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce thème, appelez-nous, vous êtes agriculteur, vous êtes paysan, appelez-nous, vous êtes intéressé par cette question de changement climatique, appelez-nous au 081-890-63-94, vous pouvez également nous envoyer un SMS au 081-711-50-01.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Comment faire face aux effets du changement climatique sur les cultures, sur l'agriculture? Alors, professeur Nicolas Choukou, est-ce que il existe, par exemple, des cultures qui peuvent résister au changement climatique? Est-ce qu'il y a des techniques pour faire que, de telle sorte que les cultures résistent à tous ces changements?
Donc, aujourd'hui, pour que les cultures résistent, il faut appliquer certains intrants. Il y a les intrants naturels et il y a les intrants artificiels. Il y a des endroits où quand vous faites des cultures, il faut labourer et introduire la végétation, introduire les feuilles, et ces feuilles qui se décomposent, ça va donner des limices.
Ça va enrichir.
Ça va donner des limices, ça va donner la litière qui devient importante pour la culture. Mais il est toujours important de savoir, dès que vous ouvrez une forêt, vous perturbez. Et il est pour éviter, il faut replanter. Et en outre, pour éviter des cultures où on va couper avec des méthodes surbrillées, il faut à un moment donné que dans notre pays, on abandonne la culture surbrillée, parce que dès qu'on est en train de briller un espace boisé, ça veut dire que l'espace qui absorbe des CO2 qui transforme en biomasse végétale nouvellement produite pour comme dans notre pays, ça signifie que l'herbe qui devait libérer ou absorber les CO2 et couper, c'est qu'il y a toujours des modifications qui doivent arriver. Que faut-il faire? Il faut que certaines pratiques commencent à changer dans ces pays ou dans d'autres pays. Par exemple, quand on fait des cultures, on ne brûle pas. On peut utiliser les animaux pour faire les labours, par exemple. Ce sont des méthodes qui...
Mais chez nous, ce n'est pas une méthode qui est très, très...
Jusque-là...
Est-ce qu'elle est pratiquée quelque part, ici?
Dans les pays sahéliens, par exemple, à Ouagadougou, au nord, on utilise déjà les animaux pour faire les labours. Ça intervient dans l'agriculture. Mais chez nous, c'est ce que je disais, nous pouvons utiliser ces méthodes. On se rudimentalise encore. On rentre encore en arrière au lieu de progresser. Pourtant, nous avons cette technologie de pouvoir progresser. Mais on peut utiliser les engrais chimiques, on peut les utiliser, c'est toujours bien. Mais ce que vous devez savoir, on utilise les engrais chimiques...
Oui, on dit souvent les engrais, il faut les éviter, il faut manger bio, alors quand il y a trop d'engrais, c'est pas bon aussi pour la santé.
j'allais arriver à dire.
Oui.
Nous sommes presque, comme disent certains pasteurs dans la République démocratique du Congo, que c'est un pays béni où on trouve les sols riches. Pourquoi enrichir encore ce sol par des engrais chimiques? On peut utiliser les engrais biologiques pour équilibrer les sols. On peut utiliser ces engrais et on trouverait un bon rendement. Mais cette conscience d'utilisation des engrais n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'ils font les cultivateurs ou les paysans? Dès qu'il a cultivé un endroit, il a tendance à aller de l'autre côté. Et puisqu'il se sédentarise par rapport au village, il doit rentrer après quelque peu de temps dans l'autre endroit, là où il a cultivé, et il appauvrit finalement les sols. Et quand les sols est appauvri et quand les sols est nus, je disais, il y a l'érosion et puis le phénomène arrive.
Nous savons qu'il y a généralement chez les agriculteurs, on parle des saisons A, saison B.
Oui.
Il y a des moments où on veut peut-être, c'est la période indiquée où il faut faire les semis. Bon, il n'y a pas de pluie, il y a des perturbations ou soit les pluies sont irrégulières, tout ça, ça peut influer sur les résultats finaux.
En principe, dans notre pays, avec des cours d'eau, les problèmes des cultures ne pouvaient pas se poser. C'était un problème d'organisation parce qu'on pouvait faire des digues, on pouvait amener de l'eau, on pouvait arroser de l'eau. Et pourquoi on parle de semis A, semis B? Nous sommes dans un climat tropical humide où la saison des pluies dure longtemps et la saison sèche, c'est 3 à 4 mois. Mais entre la saison sèche et des pluies, on trouve des périodes où il y a diminution de la précipitation. C'est à ce moment-là qu'intervient la saison A et la saison B. Même pendant la saison sèche où les gens ne produisent pas. On peut produire en y amenant de l'eau, en irriguant le sol, en irriguant la végétation. On peut trouver la végétation, on peut trouver les cultures. C'est toujours biologiquement bien d'irriguer. Nous ne manquons pas d'eau. Nous manquons, il y a un problème de la gestion de l'eau, mais nous avons de l'eau.
Nous avons de l'eau ici.
Oui.
Voilà. Des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Mais est-ce qu'il y a des types de cultures qui n'ont pas tellement besoin d'eau pour se développer? Ou bien toutes les cultures, il faut absolument arroser, il faut absolument de l'eau.
Généralement, pour qu'une plante puisse germer, il faut une quantité de l'eau. Mais la quantité de l'eau dépend d'une culture à une autre. Mais néanmoins, l'eau est indispensable pour faire germer une végétation. C'est ça.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a, dans certaines régions, il y a rareté de pluie, par exemple au Bas-Congo, d'après les informations reçues, à un moment, il y a eu rareté de pluie, il y a eu des conséquences sur les cultures. Ailleurs, il y a eu de la pluie, des précipitations. Alors, qu'est-ce qui a causé ces changements?
Nous sommes dans le monde où il y a la circulation atmosphérique. Et puis, quand vous parlez le cas du Bas-Congo, le Bas-Congo est longé par un courant marin qu'on appelle le courant marin froid de Benguela. Les caractéristiques d'un courant marin froid, c'est une caractéristique qui fait que ce courant marin fait la subsidence de la masse d'air. Par contre, au lieu qu'il y ait ascendance de la masse d'air pour qu'il y ait formation des nuages qu'on appelle les cumulonimbus, afin d'atteindre les points d'arrosée et faire précipiter, avoir la précipitation,
oui.
Il en arrive que dans les Bas-Congo et à ces endroits-là, sur la côte où on trouve la mangrove elle-même est en train d'être décimée pour les bois de chauffage, et en plus il y a le phénomène des courants marins froids de Benguela, et puis au lieu qu'il y ait la précipitation, il y a ascendance de la masse d'air. Les caractéristiques des courants marins fait que la masse d'air ne puisse pas ascender, ça fait la subsidence, et c'est ce qui fait que à cet endroit-là et à l'ouest, il y a généralement rareté de la précipitation. C'est différent à l'est du pays, par exemple sur les montagnes où il y a le climat d'altitude. Sur le climat d'altitude, il y a la circulation de la masse d'air entre les hauts et les piémonts de montagne. Et pendant la circulation de la masse d'air, il y a la côte au vent qui a la précipitation et la côte non le vent qui n'a pas de précipitation. Mais néanmoins, vous remarquez que dans la zone équatoriale de la République démocratique du Congo, il y a la précipitation. Et au fur et à mesure, on quitte l'équateur en allant vers les tropiques. Il y a la diminution, on quitte de l'équateur vers le climat tropical humide ou le climat tropical sec. La précipitation est en train de diminuer en fonction du climat aussi et en fonction aussi de la manière dont nous avons utilisé nos forêts, parce que les forêts contribuent aussi à l'évapotranspiration et nous donnent la précipitation. Oui. Et comme nous coupons les forêts d'une façon non intelligente, c'est que nous contribuons à la réduction de la précipitation.
Bien. Japhet Mutombo nous appelle de Kananga. Bonjour, Japhet.
Bonjour, monsieur Jedi.
On vous écoute.
J'aimerais savoir, est-ce que le changement climatique a-t-il un impact sur la vie des animaux?
Bien. Professeur Nicolas.
Oh, une bonne question. Est-il vrai que le changement climatique a un grand impact sur la vie des animaux, madame? Imaginez-vous...
C'est monsieur.
c'est monsieur.
Oui.
Excusez-moi de changer votre sexe. ce que je voulais vous dire, qu'il y a un grand... Parce que quand les endroits il y a de fortes températures, l'homme aussi est un animal. Imaginez-vous que l'animal a une forte température, a de fortes températures et il doit se cacher. Il doit se cacher sous les ombrages. Mais quand il n'y a pas d'ombrage des bois, des arbres, l'animal va souffrir. Mais il y a des endroits où le changement climatique fait sécher des cours d'eau. Il y a les cours d'eau qui n'existaient pas. Mais les animaux qui doivent boire cette eau-là, ils vont faire des grandes distances pour chercher de l'eau. Mm-hmm. Il y a toujours des problèmes. En fait, même le changement climatique fait que certaines végétations ne poussent pas. Pourtant, ces végétations sont soit les remèdes pour les animaux, ou les repas pour les animaux. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des impacts négatifs toujours quand il y a le climat change. Dès qu'il y a modification du climat, dès qu'il y a modification des éléments du climat, les êtres vivants en général
subissent les effets.
Subissent des conséquences.
Oui. Alors vous avez dit pour faire face au changement, aux effets du changement climatique sur les cultures, hein, vous recommandez l'utilisation des engrais et puis changer les méthodes utilisées par les paysans.
Il faut changer les méthodes culturelles. C'est très important qu'on puisse changer les méthodes culturelles. Il y a de certains pays, je disais, ils utilisent les enclos d'élevage, ils changent des enclos d'élevage. Vous mettez les animaux et les animaux laissent leurs excrétas et après, à un moment donné, vous les déplacez. Ces excrétas, vous les mélangez avec des sols. Vous avez les engrais biologiques que vous pouvez cultiver et avoir des produits biologiques importants pour nourrir les personnes humaines. Et au lieu de chaque fois de couper et de faire des brûlis. Et ça, en fait, les techniques culturelles et les méthodes culturelles sont à changer.
Bien. Alexis Panda nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
J'appelle de Kananga pour poser. Allô?
Allô, oui.
J'ai une préoccupation adressée à l'invité. C'est par rapport à. Je déplore avec ce qui arrive dans le cadre du changement climatique, mais j'ai dit parce que les gens n'arrivent pas à pointer du doigt les responsables par rapport à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Par exemple, ils disent qu'on coupe le bois, ils disent qu'on pratique l'agriculture sur brûlis, mais la responsabilité est à qui, puisque qui doit jouer sa part? L'État a une responsabilité par rapport à certaines préoccupation de la population qui manque de l'énergie, par exemple, l'État doit jouer son rôle, l'invité n'arrive pas à le pointer, alors finalement, il n'y a personne qui va se sentir responsable de quoi que ce soit. On va dire qu'on coupe les forêts, on pratique l'agriculture sur brûlis, ainsi de suite, mais il faut pointer les responsables de sorte que chacun prenne sa responsabilité et on pourra évaluer.
Merci Alexis. Michel Umpemena, vous êtes à Matadi, dans le Bas-Congo. Bonjour.
Oui, bon, j'allais seulement intervenir après.
Oui.
J'allais demander à notre invité si notre gouvernement s'implique vraiment en ce qui concerne le changement climatique. Parce que moi, j'ai tendance, comme si ce sont les communautés internationales, les organismes internationaux, qui s'impliquent trop que notre propre gouvernement. Je m'explique pourquoi. Parce que si vous allez... Par exemple, en Angola, il y a des lois qui ont été créées seulement pour la forêt. Aujourd'hui, dans des forêts angolaises, ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans des forêts. Et lorsque vous entrez dans une forêt, il faut que les chefs du village soient au courant. Il y a quelqu'un qui est parti dans une forêt, et pour quel but? Parce que nous oublions plus les milliers ruraux. Or, c'est dans les tels milliers où l'on trouve la plus grande partie des forêts. Mais tout doit revenir au gouvernement. Parce qu'en Angola, ça marche pourquoi? Parce que même le chef du village en Angola est payé. Il est bien payé. Donc il fait le suivi. Même s'il y a quelqu'un, il y a un étranger qui vient, qui entre dans ce village, il connaît déjà mais pourquoi, qu'est-ce qu'il est venu chercher. Donc ça doit revenir aussi à notre gouvernement de chercher un peu à valoriser les milliers ruraux. Parce que ce sont des milieux qui sont tellement abandonnés. Nous nous voyons comme si le Congo, c'est tellement Kinshasa, tout ce qui s'est fait, c'est tellement Kinshasa.
Oui.
Et les autres milliers, nous oublions. Or, le développement d'une nation, le développement d'un pays, c'est d'abord les milliers ruraux. Voyons d'abord ce qui se passe là. Même en matière éducative, on doit enseigner, apprendre, et tout ça. Parce que l'homme aussi, l'homme villageois, vit aussi de la forêt.
Donc, nous oui, Michel, c'est comme là, on nous a dit oui. Dernièrement que la forêt du Mayombe, par exemple, est en voie de disparition. La coupe de bois est s'est faite d'une manière extraordinaire.
Ah oui.
Non. Alors, contrôlée.
Moi, je pose maintenant la question d'invité. Et l'homme et la forêt, qui est vraiment important? Parce que si l'homme aussi, l'homme mange de la forêt, l'homme au fond là, il mange de la forêt, lorsqu'il n'a rien. Mais il va mourir. Alors, maintenant, il faut privilégier la forêt, ou bien je dois privilégier ma vie. Donc, c'est ça un peu.
Oui. Merci. Michel. Professeur Nicolas.
Je suis content pour les deux questions. Ce sont des questions qui se couplent. Alors, le premier parle de Alexis, je pense, de la responsabilité.
Oui.
Et c'est pas que je ne touchais pas le doigt. Je répondais à la question. Personne n'avait posé la question par rapport
aux responsabilités.
Maintenant que quand vous posez le problème de la responsabilité par rapport au changement climatique est une responsabilité partagée. Il faut pas seulement croire que c'est le gouvernement qui peut travailler par rapport au changement climatique, même l'homme, parce que c'est que ça soit les éléments du pouvoir, que les éléments paysans ont des actions sur la forêt, ils ont la pression dans la construction des immeubles, ils changent, tout le monde change.
Il y a les exploitants forestiers.
Il y a les exploitants forestiers, il y a les expatriés qui arrivent, qui, en fait, toutes les actions que nous tentons de faire sur les milieux naturels, alors ce sont des actions de réchauffement climatique, il y a l'élevage, il y a l'augmentation de la population. Mettez-vous dans une voiture des 4 personnes à 10 personnes, vous avez la chaleur. Mettez-vous dans le véhicule que vous appelez communément esprit de mort, faites par 10 personnes, pour 10 personnes, vous mettez 30 personnes, vous allez vous chauffer. Déjà, nous devons avoir un comportement responsable. Alors, même la mortalité doit être réglementée, les cultures doivent être, les champs doivent être réglementés, la pression doit être réglementée. Mais il est évident.
Les responsabilités sont partagées.
Oui. Et puis, il est aussi évident que le gouvernement a une très grande part de responsabilité. C'est lui qui doit réglementer. Mais il existe des lois. Est-ce que le gouvernement est en train de faire quelque chose? Moi, je pense par rapport au changement climatique, oui. Le gouvernement a fait, il y a le code de l'environnement que le chef de l'État a publié, il y a le code forestier, il y a le code agricole. Ce sont les différentes lois qui existent.
Mais qui ne sont pas vulgarisées.
Il se passe dans notre problème, dans notre pays, deux choses. Un, le président de la République prend des lois après le Parlement. Deux, il n'y a pas de mesures d'application. Si une loi est votée et que le président le promulgue, qu'il n'y a pas l'arrêté d'application, c'est comme une femme qui vient de mettre mort-né. Cette loi n'a pas d'importance. Il faut que les ministres concernés mettent les mesures d'accompagnement. S'il n'y en a pas, il y a les experts dans ces pays qui peuvent aider à faire les mesures d'accompagnement. Deux, et même s'il y a certaines lois où il y a les mesures d'accompagnement, il faut qu'il y ait l'applicabilité de la loi. Mais il y a des gens qui sont au-dessus de la loi dans ces pays. Or, la loi est imposable à tous. C'est que nous comprenons. Mmh. Mais en fait, et par rapport à la dégradation, à l'énergie, tout ça, nous savons, nous avions déjà parlé et nous continuons à parler. tout ce que le gouvernement doit organiser l'énergie, les ministères de l'énergie, il doit organiser les ministères de l'agriculture, mais les lois existent. Mais il y a aussi la part de nous, de la population, par rapport au comportement sur le changement climatique. Quand vous construisez votre maison, vous mettez un mur en hauteur. Vous, le soir et la journée, le mur absorbe la température. Le soir, ça dégage. Vous avez la chaleur. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est vous. Il faut comprendre.
Bah, c'est pour se protéger contre les voleurs, seulement peut-être.
Chaque action sur le milieu signifie une réaction, oui. Par rapport au climat.
Oui. Victor Ogito nous appelle de Lubumbashi. Bonjour. Victor.
Bonjour.
On vous écoute, Victor.
Oui, moi je suis à Lubumbashi. Je suis Victor. Alors je voudrais poser une petite question à l'invité.
Oui,
oui.
Oui. Quelle est l'importance des engrais qu'on met dans un champ pour qu'il y ait de la fertilité?
Quelle est l'importance des engrais dans un champ? Alors, ça, le champ est important de mettre les engrais quand vous sentez que votre sol n'a pas une certaine fertilité. Il y a les engrais azotés, les engrais potassiques. Vous les mettez en fonction des cultures que vous voulez mettre. Les engrais, c'est seulement pour vous permettre, un, d'avoir un bon rendement, deux, de faire croître votre production. Mais ici, dans notre pays, il est souvent conseillé de ne pas utiliser les engrais chimiques. Utiliser les engrais, nous conseillons d'utiliser les engrais organiques. Et puis, et c'est très important, ces engrais vont permettre la fertilité du sol et ça va permettre une grande productivité.
Donc, donc, je crois que c'est ça la réponse face au changement climatique. Les effets de changement climatique sur les cultures aujourd'hui.
Par exemple.
Oui. Oui. Alors, à part l'utilisation des engrais, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
J'étais en train de dire qu'il faut irriguer l'agriculture. Vous savez, il y a des endroits où on peut faire les champs de riz avec qu'on appelle les riz pluviales. Et vous coupez seulement et puis vous jetez les riz sur les mares et ça va pousser, vous allez récolter. On peut récolter beaucoup de riz pluviales en République démocratique du Congo au lieu d'en importer en Inde et en Pakistan. Nous avons des espaces pour ça. C'est très important de ne pas avoir beaucoup de pression sur la forêt, oui. De ne pas avoir la pression sur les écosystèmes en général.
Bien. Vous allez répondre tout à l'heure à Michel du Bas-Congo qui nous disait entre l'homme et la forêt qui est, est important. Alors avant cela, nous allons à un auditeur, Paolo, nous appelle depuis Bordeaux en France. Paolo, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, ma préoccupation est la suivante.
Oui.
Nous, à Kinshasa, par exemple, en RDC, nous ne sommes pas des auteurs de cette dégradation climatique. Pourquoi est-ce que notre gouvernement à nous Congolais ne s'impose pas, par exemple, pour imposer auprès des organismes mondiaux pour pouvoir nous dédommager, parce que nous sommes des victimes déjà de cette variation climatique. Et nos agriculteurs, aujourd'hui, en souffrent. La population congolaise aussi en souffre. J'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps, je vis à Tomé, on souffre. Est-ce que ça ne pourrait pas être un filon qu'on peut profiter pour que l'organisation des forêts, la WFA, puisse aussi nous prendre en compte les pays qui sont victimes, comme nous sommes des victimes de cette élévation climatique, de la température au niveau du Congo.
Bien. Merci, Paolo. Jacqueline Kubakisa, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, je dis ceci.
Oui.
Vous ne trouvez pas avec moi que le changement climatique n'est pas maintenant des vieux. Puisque selon ce que l'institut a avancé comme région, on coupe les bois. Mais vous pouvez m'expliquer ce que c'est à Kananga. Il y a un temps, depuis que j'ai grandi, j'ai maintenant 24 ans. Il n'y a pas existence du courant. On utilise que le bois pour préparer. Alors, depuis tout ce temps qu'on utilisait le bois pour préparer, il n'y a pas de changement de climat. C'est seulement maintenant qu'il y a changement de climat parce qu'on utilise mal la forêt. C'est pas que c'est l'affaire de Dieu.
Voilà, donc est-ce que c'est pas l'affaire de Dieu? Merci Jacqueline Kouba-Kissa. Professeur Nicolas.
Ah, une belle question, je suis très content. D'abord, je vais terminer, je vais commencer avec la dame qui parle de bois énergie, l'affaire de Dieu. Tout est affaire de Dieu, mais non. Dieu a donné à l'homme une certaine intelligence et l'homme doit se comporter dans un milieu différent par rapport à l'intelligence. Il y a 24 ans, tu avais zéro une année, mais plus que tu as 24 ans, est-ce que tu connais combien de personnes qui sont sur cette terre? Tu dois dans Obia Kananga. Il n'y a pas l'électricité, c'est normal, ça c'est le gouvernement qui doit tout faire pour amener l'électricité. Et la pression sur les bois énergie est tout à fait importante parce qu'on coupe les bois, on coupe les herbes, on carbonise, on envoie la fumée à l'atmosphère, on perturbe les COD et les changements, les modifications climatiques existent. Et je suis très content avec notre confrère qui est en France, Paulus. Il pose un élément très très important par rapport... Par rapport à la pollution, il dit, nous, les changements climatiques, nous, on ne modifie pas le climat. Effectivement, les Congolais...
Le pays pollueur, là, est-ce qu'il peut pas dédommager le Congo?
J'en arrive. Effectivement, les pratiques des Congolais modifient aussi le climat, mais à une faible proportion par rapport aux pays développés. Il faut dire qu'on ne modifie pas, il faut pas croire à ça. On modifie, on fait l'effet de brousse, on intervient par les cultures surbrillées, on coupe, ça on modifie. Mais est-il vrai que les pays développés pollue plus, modifie plus le climat et que le gouvernement dans son ministère de l'énergie et de l'environnement comme de l'agriculture dans le cadre des mécanismes du développement propre doivent faire les projets sur la péréquation au carbone, doivent faire des projets sur le puits carbone pour que le gouvernement congolais bénéficie en fait de cette péréquation mondiale sur la forêt parce que nous sommes un pays poumon de l'atmosphère par rapport le Brésil. Alors si le Brésil bénéficie, nous on ne bénéficie pas, il y a un problème parce que les fonctionnaires, les Congolais n'arrivent pas à faire le projet, ne font pas le projet bancable et soumettre. Et puis les autorités quand ils voyagent dans des conférences internationales, quand ils ratifient les traités, ils doivent rectifier les traités au bénéfice des Congolais et non au bénéfice des poches. C'est très important cette affaire.
Oui.
Donc, entre l'homme et la forêt qui est important. Ici, nous sommes entre les espèces vivantes, les êtres vivants. Tout est important. Écoute, la forêt est le producteur du premier ordre. Le producteur du premier ordre est consommé par les consommateurs du premier ordre qui sont les herbivores. Les herbivores consomment sont consommés par les carnivores et l'homme qui est omnivore, détritivore, qui consomme tout. Mais quand il n'y a pas l'herbivore, ça signifie que quand il n'y a pas l'herbe, il n'y aura pas l'herbivore, il n'y aura pas les carnivores, il n'y aura pas les détritivores. À ce moment-là, la niche trophique qui est en fait une niche alimentaire va se couper et il n'y aura plus de vie sur Terre. Donc, du point de vue la niche écologique, c'est l'air, la végétation est importante parce que c'est elle là qui emmagasine les rayons énergétiques du soleil et qui permet à donner la nourriture partout. Mais l'homme est au centre de l'écosystème. C'est l'homme qui est intelligent. C'est l'homme qui a le raisonnement. Il est homo sapiens. C'est lui qui doit commencer à faire des pratiques intelligentes pour protéger l'équilibre de la niche écologique, l'équilibre de la chaîne trophique et l'équilibre des écosystèmes.
Oui. Alors vous avez évoqué également comme l'une des raisons des effets du changement climatique sur les cultures, faibles et jachères. Vous avez dit les agriculteurs, les paysans ne laissent pas tellement reposer la terre. Comment expliquez-vous cela?
Regarde. Quand vous arrivez dans les milieux paysans aujourd'hui, dans nos villages, d'ailleurs les gens du village organisent les terres par des familles, par des clans. Et chacun cultive son terrain, supposons que c'est un surface pour lui, il les cultive aujourd'hui. Après avoir cultivé, après avoir récolté 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il revient sur le même endroit. Au lieu de laisser la terre en repos, il faut laisser pour que la terre se repose. C'est ce qu'on appelle le jachère, sur un certain temps, 4 à 5 ans, 6 ans, pourquoi pas, pour que la forêt obtienne ce qu'on appelle le climax. Le climax n'est qu'un équilibre éco-climatique pour permettre en fait à cette végétation de faire tomber les feuilles, de renforcer les humus, de fertiliser le sol, de remettre encore les êtres vivants, macro comme microscopique. Mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui chez nous.
Oui. Bon, et pourquoi ils font ça? Ils reviennent sur la même terre après parce qu'ils n'ont pas d'information ou bien par manque d'espace pour cultiver.
Il y a deux faits font que ils reviennent. Un, ils veulent être sédentaires sur place. Ils veulent pas aller loin. Parce que dès qu'ils vont loin, ce sont des gens, ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens de transport, ils utilisent les moyens traditionnels, afin ils restent non loin de leur village. Oui. Mais alors, s'ils étaient mécanisés, ils pouvaient aller plus que loin que ça. C'est pourquoi. Et puis les gens du village, comme ils augmentent la population, qu'est-ce qu'ils font? C'est toutes ces populations, ils n'ont pas autre travail que d'aller dans les champs. Ils n'ont pas un travail que d'aller couper pour l'énergie bois, comme disait la fille de 24. Ils n'ont pas
de Kananga.
Oui. Ils n'ont pas autre travail que d'aller chercher le bois pour faire leurs chaises. Donc la pression sur la forêt est tellement forte. Oui. Mais il faut à un moment donné que le gouvernement puisse commencer à régulariser des choses et puis commencer seulement
à réglementer
et diminuer les taxes et organiser les systèmes agricoles de notre pays.
Bien, professeur Nicolas Soukou Onemba, environnementaliste, merci et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup, au revoir.